J'exerce sur le marché à terme des marchandises.
Quelles marchandises?
Cacao, sucre, soja, etc.
Les produits de première nécessité.
Ah oui, c'est intéressant.
Ça dépend. Ça va, ça vient. Ça monte, ça descend. Un jour le soleil, le lendemain la pluie, il faut prévoir.
Demandez à monsieur Laumont. Tantôt je lui dis couvrez-vous, tantôt va faire chaud.
J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir.
Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. L'avoir plein nos armoires.
Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers.
Oh. On a tout compris.
On nous cache tout, on nous dit rien.
On nous prend, faut pas déconner, déconner. Pour des cons alors qu'on est.
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
Salut, vous êtes à l'écoute de Zoom Écologie 106.3. On va écouter tout de suite un petit micro-trottoir et on va dérouler le fil de l'émission. On aura ce soir au téléphone Bruno Charéron de la CRIRAD. On va faire un petit état des lieux du nucléaire en France et de la radioactivité. Voilà, donc tout de suite un petit micro-trottoir.
Ça amène des cancers, bien sûr.
Ça vous fait peur? Est-ce que vous connaissez les risques du nucléaire?
Oui, quand même, la radioactivité, oui, bien sûr.
Est-ce que vous savez ce qu'est la radioactivité?
Ça amène des cancers, bien sûr.
Ça vous fait peur?
Ah oui, bien sûr, oui.
Et plus concrètement, est-ce que vous avez peur d'un accident nucléaire en France?
Oui, et pas qu'en France, en Europe.
C'est des questions sur le nucléaire.
Ah bon? Voilà. J'y connais rien, mon nucléaire.
Est-ce que vous avez peur d'un accident nucléaire en France?
Personnellement, non. J'en ai pas peur dans le sens où c'est pas quelque chose à quoi je pense régulièrement. Je sais que ça peut arriver, mais j'y pense pas, c'est tout. Donc dans ce sens-là, j'ai pas peur.
Est-ce que vous connaissez les risques du nucléaire?
Oui. En deux mots, des risques au niveau écologique, environnemental, au niveau également de la santé. Des risques après de détournement des technologies nucléaires à des buts terroristes, des buts des catastrophes, je sais pas moi, militaires ou autres.
Et est-ce que vous avez peur d'un accident nucléaire?
Non, a priori non.
Vous connaissez un peu le nucléaire?
Un peu, oui, pour en avoir entendu parler.
Parce que c'est l'enjeu. Hein,
c'est d'actualité.
Est-ce qu'on va faire avec ou est-ce qu'on est condamné à faire avec ou pas? Oh, les principaux risques, ce sont les déchets et les accidents. On le voit avec le PR. Hein. Il y a un gros hic, alors est-ce qu'on nous dit tout? Est-ce que. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Dubitatif. C'est sûr que si on se met à faire avec des centrales à charbon, on va faire fondre le pôle Nord, le pôle Sud. Ça, je sais pas. Je sais pas. Comme monsieur tout le monde, je manque d'éléments.
Et la radioactivité?
La radioactivité, je pense que si on avait un compteur Gégère en faisant nos courses, on aurait des surprises.
Alors madame, est-ce que vous avez peur d'un accident nucléaire en France?
Pas spécialement.
Est-ce que vous connaissez les risques du nucléaire?
Oui, des risques au niveau de la thyroïde, entre autres, au niveau des explosions aussi, en général, oui. Pas forcément dans le détail, mais...
Mm-hmm. C'est quelque chose qui vous fait peur, le nucléaire ou...
Peur, c'est pas le mot, mais je sais que ça serait évitable et que ça serait bénéfique de l'éviter, mais...
Est-ce que vous savez ce qu'est la radioactivité?
Oui, vaguement. C'est effectivement ce qui produit éventuellement des dérèglements thyroïdiens
et les cancers, il me semble bien.
Et dernière question, est-ce que vous avez peur d'un accident nucléaire en France ?
Oui, puisque apparemment les centrales nucléaires sont vieillissantes, donc il y a un risque assez réel, mais après je n'en sais pas plus.
Et voilà, c'était le micro-trottoir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Zoom écologie et du nucléaire, un thème chaud, surtout en ce moment où il fait plutôt froid.
Puis on a été un peu directement dans le vif du sujet là, avec ce micro-trottoir.
Ah oui, carrément, hein. Puis il y avait du bon sens en plus dans les réponses, et une petite tendance aussi au niveau des réponses, hein. Un certain manque d'informations a priori, hein, qui ressortait.
C'est un peu ce qu'on a noté du coup, mais on va peut-être interroger notre invité, que oui. Je te laisse nous présenter, Johan.
D'accord, dans un premier temps, je vais vous parler de la CRIRAD, car notre invité vient de la CRIRAD. La commission de recherche indépendante sur le nucléaire en général, qui est souvent présente dans les différents documentaires sur le nucléaire. Donc c'est en compagnie de Bruno Charéron que nous allons dérouler cette émission.
Et Bruno Charéron est au téléphone.
Bonsoir
Bruno Charéron. Vous allez bien ?
Ça va très bien. Je voudrais juste compléter ce que vous avez dit par rapport à CRIRAD. CRIRAD, ça veut dire commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité,
oui.
C'est-à-dire sur toutes les formes de radioactivité, que ce soit strictement naturelle, liée aux examens médicaux ou au nucléaire.
Tout à fait. C'est le stress qui m'a fait perdre la mémoire. D'ailleurs, je vais vous rappeler les actions de la CRIRAD, hein, qui est née suite au mensonge lié au nuage de Tchernobyl,
86.
Donc suite à la catastrophe de Tchernobyl. Les actions donc de la CRIRAD, c'est combattre la désinformation, dépister les contaminations et faire nettoyer les sites et sanctionner les pollueurs, surveiller les rejets radioactifs des installations nucléaires, contrôler la gestion des déchets radioactifs, engager des actions en justice, mobiliser pour défendre notre santé et aider les victimes à faire toute la lumière sur les conséquences. C'est un gros boulot, hein, que vous avez actuellement au niveau de la CRIRAD, Bruno Charéron.
Ah oui, c'est un travail qui est à la fois lourd par la liste des thématiques que vous venez de citer, et puis par le fait que de plus en plus on est sollicité à l'étranger, par exemple les populations concernées par l'impact des mines d'uranium au Niger, au Gabon, au Tchad, etc. Donc on est une toute petite équipe, puisqu'on est 15 salariés à Valence, et vu le nombre d'installations nucléaires rien que sur la France et le nombre de problématiques qui se posent, c'est vrai que ça fait beaucoup. Heureusement qu'on a nos adhérents qui nous soutiennent et qui sont à peu près 4500 en France, c'est-à-dire des citoyens qui, par leur engagement, par leur cotisation, par leurs dons, nous permettent de continuer à faire ce travail.
D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? On sait que vous êtes le responsable du laboratoire de la CRIRAD. Quel est un petit peu votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à traiter de ce sujet et à développer un tel métier, qui n'est pas sans risque d'ailleurs ?
Ben, disons que j'ai fait des études d'ingénieur en génie énergétique et nucléaire. Génie énergétique, c'est-à-dire mon questionnement, c'était d'essayer d'avoir des éléments d'appréciation sur les différentes formes d'énergie. Avec aussi un volet physique fondamental, c'est-à-dire comprendre un peu les forces, les atomes, la physique des particules. Et puis après, au niveau du parcours professionnel, j'ai travaillé comme ingénieur chercheur à EDF pendant 2 ans, plutôt en physique des réacteurs. Ensuite, dans une entreprise de fabrication de panneaux photovoltaïques. Et puis, il y a maintenant 16 ans, la CRIRAD cherchait un responsable de laboratoire. Et à cette époque, j'avais vécu pas très loin de l'usine de La Hague, dans le Cotentin, et j'avais été interpellée par le problème de l'excès de leucémie chez les enfants. C'est ça, c'est en particulier ça qui m'a fait m'intéresser aux conséquences de la radioactivité sur la santé.
D'accord. C'est vrai qu'on ressent un sens humain dans l'action de la CRIRAD, hein, qui manque un petit peu dans ce qui touche l'activité nucléaire. Donc effectivement, le parc de centrales nucléaires en France s'estime autour de 58 centrales nucléaires disposées sur 18 sites, dont les premières ont été construites dans les années 70. Ça fait beaucoup pour un petit pays comme la France, hein, au niveau superficie. Le but était de revendiquer une certaine autonomie en électricité. C'est plus le cas actuellement. Hein. On sait que dernièrement, on a dû importer jusqu'à l'équivalent de 6 à 7 centrales nucléaires. Je crois le chiffre a été annoncé hier. Donc, c'est surtout dans les années 50 que ces programmes ont été pré-lancés et développés par la suite. Et aujourd'hui, on arrive à terme. Mais les centrales nucléaires, ce n'est que la partie visible, en fait. Il y a beaucoup d'autres types de sites qui touchent le nucléaire, comme les sites de stockage de déchets ou de retraitement, ou bien les laboratoires de recherche, mais il y a aussi l'aspect militaire, hein, les sites de construction de bombes nucléaires, ou d'essais balistiques de l'uranium appauvri, ou encore scientifiques avec les cyclotrons, enfin les accélérateurs de particules qui produisent aussi des déchets radioactifs. Donc ça fait beaucoup. Justement, Bruno Chariron, est-ce que vous avez déjà intervenu sur des sites à proximité de Paris concernant la radioactivité et ses problèmes ?
Oh, bien sûr, sur Paris, parmi les bon, il y a pas mal de sites. Hein. Ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est les problèmes liés à la pollution par les déchets au radium. Vous savez que le radium, donc c'est un métal radioactif qui a été découvert au début du siècle dernier par Marie Curie. Et à l'époque, ça a été une véritable engouement pour le radium. On pensait que c'était un métal qui allait guérir des tas de pathologies. Il a été incorporé à l'époque dans de la laine pour faire des pullovers, dans des engrais, dans tout un tas d'objets, y compris des sous-vêtements d'ailleurs. Or, c'est une substance qui est très radioactive. Donc, les différents sites qui ont isolé ce radium ont laissé des déchets radioactifs à longue période, puisque la période physique du radium, c'est 1600 ans. Et ça concerne, par exemple, le site de l'ancienne école Marie Curie à Nogent-sur-Marne. La CRIRAD y a fait des études pendant une dizaine d'années. On s'est battu d'ailleurs à l'époque avec les parents d'élèves, avec les associations locales, pour faire reconnaître la pollution de ce site. Dans cette famille de sites, il y a aussi l'affaire de Gif-sur-Yvette, où là, plusieurs pavillons d'un même quartier se sont avérés contaminés par des déchets, là aussi, dus au radium.
Ah oui, le fameux chemin du radium.
Par exemple, effectivement. Donc là aussi, on a dû batailler pendant plusieurs années avec des citoyens, avec des associations locales pour faire reconnaître la contamination de ces sites.
D'accord. Et il y a aussi les sites liés à l'activité de recherche du CEA qui ne sont pas toujours très très clairs. Je crois qu'il y a de plusieurs décharges qui ont été laissées en suspens et il a fallu que vous interveniez pour trouver une issue favorable.
Ben, je ne sais pas si vous faites allusion au CEA de Saclay et à ses environs. La CRIRAD à l'époque, non, ça date de largement plus de 10 ans, plus de 16 ans même. La CRIRAD avait soulevé le problème de la décharge de Saint-Aubin, pas très loin du site de Saclay, où le CEA effectivement avait mis en décharge des déchets radioactifs, dont des déchets contenant du plutonium, et aussi sur le site d'Itteville, en région parisienne, où là, des déchets radioactifs contenant en particulier de l'uranium et du thorium ont été, puisqu'ils y sont toujours, entreposés à même le sol, à côté du site du Boucher.
D'accord. D'ailleurs, on retrouve certains déchets dans des constructions, il me semble. À proximité de Paris, d'ailleurs.
Des constructions, ben disons, le point peut-être le plus choquant là-dessus, c'est vraiment les déchets au radium qui sont présents dans le sous-sol, par exemple, de cette ancienne école, l'école Marie Curie à Nogent-sur-Marne, et puis aussi des pavillons, comme je vous disais, à Gif-sur-Yvette, où, dans un cas, le pavillon a été construit carrément sur les déchets radioactifs, puisqu'il a été construit sur l'ancien, entre guillemets, dépotoir de l'usine d'extraction du radium, et puis un pavillon voisin qui a consisté à réutiliser l'ancien laboratoire de cette usine, et où on a démontré, il y a une dizaine d'années maintenant, qu'il y avait des poussières de radium pures sous les moquettes, avec un risque pour les, en particulier pour les enfants, un risque sanitaire important, très important en cas d'inhalation de ces poussières invisibles, en fait, de radium pur.
D'accord. On va voir dans un second temps, dans la seconde partie de l'émission, les risques liés à la radioactivité et savoir un petit peu ce que c'est. Pour l'instant, on se cantonne un petit peu aux différents sites et on n'a pas trop parlé de l'extraction de l'uranium, qui est un gros problème. Parce qu'a priori, là où passe le nucléaire, il oublie quelques atomes et pour longtemps. Donc, d'après vous, quels sont les sites les plus préoccupants actuellement en France concernant, peut-être pas que l'uranium, parce que c'est le radium, il y a aussi le plutonium. Et qu'est-ce qui, actuellement, vous poserez, avec votre connaissance, votre expertise, vous estimeriez que c'est le plus préoccupant actuellement ?
C'est une question qui est très difficile, parce que là, il faudrait prendre beaucoup de recul pour répondre à cette question. Donc, ça me paraît difficile. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que ce qui me semble le plus choquant, c'est quand même la situation autour des anciens sites d'extraction de l'uranium. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle pas assez de ce premier impact de l'industrie nucléaire, c'est l'extraction du minerai d'uranium. Il faut savoir qu'en France, on estime qu'il y a plus de 200 anciens sites d'extraction de l'uranium. Et en gros, chaque fois que la CRIRAD ou des associations locales avec un compteur GGR ont fait des contrôles, chaque fois, autour de ces anciennes mines, on a mis en évidence des contaminations radioactives importantes pour plusieurs familles de raisons. Parce que, à l'époque, des roches plus ou moins radioactives qu'on appelle très improprement des stériles ont été réutilisées pour faire des chemins, pour faire du remblai. On en a même trouvé dans la cour d'une école à Lachaux. Du premier problème. Deuxième problème, c'est la pollution de l'eau. C'est-à-dire que sur certains sites, dans le passé, les rejets radioactifs des mines étaient déversés directement dans les cours d'eau sans traitement. Ensuite, il y a eu des traitements, et aujourd'hui il y en a en tout cas, mais ils sont insuffisants pour garantir, ils ne permettent pas de garantir, un impact, ils ne sont pas suffisants. Et l'impact sur les rivières, sur les plantes aquatiques, sur les sédiments des rivières est tout à fait important. Donc je dirais que par rapport à votre question, ce sont les anciennes mines d'uranium qui nous semblent, en tout cas c'est autour des anciennes mines d'uranium probablement que les doses qui sont encore subies aujourd'hui par les populations sont peut-être relativement les plus importantes.
Il n'y a pas beaucoup de solutions possibles actuellement.
Bien sûr qu'il y a des solutions possibles. Je vous donne un exemple. Lorsque le problème vient du fait que ce sont des remblais radioactifs qui ont été disséminés, eh bien, il faut exiger d'Areva que ces remblais soient récupérés et remis en sécurité sur des sites adaptés. On a réussi à obtenir quelques progrès dans ce domaine avec une association qui s'appelle le Collectif des Bois Noirs sur l'ancien site minier des Bois Noirs, c'est dans la Loire, donc en région Rhône-Alpes. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille ensemble et on a obtenu, à l'issue d'un certain nombre d'expertises, que l'État, la DRIR, reconnaisse ces pollutions et qu'Areva décontamine une dizaine de sites. Donc, lorsqu'il y a un diagnostic qui est fait et qu'il y a une volonté, une mobilisation de tous les acteurs, c'est-à-dire associations locales, avec l'aide de scientifiques indépendants, comme par exemple la CRIRAD, avec l'aide des élus locaux, on arrive ensemble à des progrès. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement long. Je vous le disais, pour le site des Bois Noirs, ça fait plus de 10 ans, et c'est loin d'être fini, puisque localement, le collectif des Bois Noirs continue à faire des mesures de radioactivité et découvre encore des chemins contaminés ou des lieux contaminés. Et c'est là où nous, en tant que CRIRAD, ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il y ait une politique nationale qui soit définie, une politique ambitieuse de repérage et de décontamination de tous ces sites.
Alors justement, Bruno Charéron, j'avais une question un peu de béotienne par rapport au repérage. Comment vous y prenez pour savoir qu'il y a de la radioactivité à tel endroit ? Parce que ça se sent pas, ça se voit pas. Comment vous y prenez ? La cour d'école de Lachaux que vous citiez tout à l'heure, par exemple. Comment on va dans une cour d'école en se disant, tiens, là, il doit y avoir de la radioactivité ?
Alors, la cour d'école de Lachaux, c'est une très longue histoire qui a débuté au départ avec la vigilance des associations locales. en particulier l'association Puy de Dôme Nature Environnement à l'époque. Ce qui se passe, c'est que tout part. Enfin, il faut travailler étroitement avec les associations locales parce que ce sont elles qui connaissent d'anciens travailleurs, d'anciens mineurs, des habitants, des propriétaires qui ont vu les choses. Donc déjà, ce sont ces associations-là qui vont pouvoir nous donner des indications sur les endroits où il pourrait y avoir un problème. Après, techniquement, si on parle en particulier d'impact des mines d'uranium qui se détectent assez facilement avec un compteur GGR, c'est très simple même de se rendre sur un lieu donné avec un compteur GGR et de faire des mesures. Ça peut être fait en voiture, puisque les rayonnements gamma qui sont émis par le minerai d'uranium sont extrêmement puissants et traversent facilement, y compris le métal du véhicule, ce qui fait qu'en roulant à 20 ou 30 km à l'heure avec votre compteur GGR dans la voiture, vous pouvez repérer le fait que vous êtes en train de rouler sur un parking contaminé ou une route contaminée ou des choses comme ça. Donc il y a plusieurs types de techniques, à pied, en voiture, également, alors nous on n'y a pas accès parce que ça coûte trop cher, en hélicoptère, à Areva, en particulier suite à l'émoi qu'a suscité le sujet La France contaminée, qui a été diffusé par France 3, pièce à conviction, en février 2009, Areva lance actuellement des campagnes de détection par hélicoptère de la radioactivité du sol pour essayer de repérer les endroits où ont été disséminés à l'époque, enfin il y a quelques décennies en général, des stériles radioactifs.
D'accord. En gros, il faut que la société civile se sente concernée pour pouvoir agir, hein, a priori.
Ah ben bien sûr, la CRIRAD, il y a un certain nombre de dossiers où la CRIRAD lance l'alerte seule et de sa propre initiative, mais je pense que dans plus de la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, c'est parce qu'il y a une vigilance citoyenne au départ, il y a un journaliste, il y a un habitant, il y a une association qui va nous interpeller. Et là, on va travailler de plusieurs types de manières. Dans certains cas, si on estime que ça a l'air vraiment urgent d'intervenir, la CRIRAD va envoyer sur place un technicien, faire des mesures. Dans d'autres cas, ça va se passer à distance, c'est-à-dire qu'on va envoyer par la poste un petit compteur GGR et demander aux gens de commencer eux-mêmes à faire quelques vérifications. C'est comme ça qu'on a travaillé, par exemple, avec des ONG au Niger. Quand l'ONG Agilinman nous a sollicité en 2002, on a commencé par leur envoyer un compteur GGR par la poste et des capteurs. Ils ont fait de premières mesures. On a compris qu'il y avait effectivement un problème, que ce qu'ils nous disaient était juste. Et donc après, on a monté un vrai projet de mesures indépendants et on a réussi à monter une mission de contrôle sur place. Donc à envoyer cette fois-ci une équipe scientifique du laboratoire de la CRIRAD. Mais vous voyez, il y a plusieurs types de cas. D'accord. Il y a des cas où on peut soulever des problèmes simplement parce que des citoyens vigilants auront fait eux-mêmes quelques mesures et nous auront envoyé un échantillon qui permettra d'objectiver qu'il y a un problème. Et après, c'est aussi aux autorités et à d'autres de prendre le relais.
Et comment vous expliquez ce manque d'information de la part des officiels ou même des industriels dans ce domaine-là? C'est étonnant que la société civile ait besoin de se manifester alors qu'on sait plus ou moins qu'il y a quand même un petit problème avec la radioactivité.
Bah, disons, quand même, là-dessus, la France est quand même assez symptomatique parce que le premier mensonge, je vous l'avais rappelé tout à l'heure, la CRIRAD est née du mensonge de Tchernobyl. C'est quand même un mensonge caractérisé. À l'époque de la catastrophe de Tchernobyl, qui a répandu des masses d'air contaminées sur toute l'Europe et bien au-delà, il faut se rappeler que le communiqué officiel du ministère de l'Agriculture français, c'était, je cite, « En raison de son éloignement, le territoire français a été totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl. »
Totalement.
Totalement épargné, ça veut dire il n'y a pas de radioactivité en France, ce qui est totalement faux. Donc ça vous donne une idée du niveau de désinformation. Et moi, ce qui me choque profondément, c'est de voir que, encore aujourd'hui, je fais allusion là au film de Dominique Hennequin, qui passe en ce moment sur la chaîne publique Sénat, sur l'impact des mines d'uranium au Niger et au Gabon. Dans ce film, tourné l'année dernière, on voit un ingénieur de Somahir, la compagnie minière filiale d'Areva, qui dit, voilà, je suis à côté de fûts métalliques d'uranium concentré, de yellow cake, il n'y a aucune radioactivité qui s'en échappe parce que l'enveloppe métallique arrête les radiations. C'est totalement faux. Le niveau de radiation contre ces fûts est au moins 10 fois supérieur, mais minimum, au niveau naturel. Et nous, on a fait des mesures sur un stockage de ces fûts en France. On détecte la radioactivité à 200 mètres du parc à fûts dans les prés. Donc, que cet ingénieur puisse dire des choses aussi fausses, c'est choquant. Alors, soit il a été lui-même mal informé, je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est un fait, et ça, on le constate toujours aujourd'hui, il y a une désinformation des industriels via les médias et la population. Alors pourquoi ? Je vous laisse leur poser la question à eux.
D'accord, ce ne sera pas évident, je pense.
Vous avez commencé à parler de pas mal de rayonnements tout à l'heure. Quels sont les plus dangereux ? Est-ce qu'on peut les classer ou, par rapport à leurs effets peut-être mais...
Oui, on peut les classer. Alors, leur dangerosité va dépendre de la façon dont ils nous atteignent. Si on parle de ce qu'on appelle la contamination, c'est-à-dire le fait que les substances radioactives sont à l'intérieur de notre corps, ce sont les rayonnements alpha les plus dangereux. Si par contre la source radioactive est à l'extérieur de notre corps, ce sont les rayonnements gamma qui sont plus dangereux parce qu'ils sont les plus pénétrants. Je vous donne un exemple. Les rayonnements alpha sont des particules chargées. En fait, un rayonnement alpha, c'est un noyau qui contient 2 protons et 2 neutrons. Il est donc lourd. C'est une particule lourde et qui, en plus, est chargée électriquement. Donc, comme elle est lourde, elle est grosse, elle est chargée, elle est assez vite arrêtée en traversant la matière. Mais du coup, ça veut dire qu'elle perd son énergie sur des distances très courtes. Si vous avez une substance qui émet des particules alpha et qui est enfermée dans un sachet en plastique, les particules alpha n'en sortent pas parce qu'elles sont arrêtées dans le plastique. Et donc, il n'y a aucun danger. Si par contre, vous ouvrez le sac en plastique et que cette poussière radioactive qui émet des particules alpha passe dans votre corps par inhalation ou par ingestion, à ce moment-là, ces particules alpha déposent leur énergie à l'intérieur de vos cellules et là vont créer des lésions. Donc, les particules alpha sont les plus dangereuses lorsque la substance qui les émet passe dans votre corps. Maintenant, deuxième exemple, les rayonnements gamma. Alors, les rayonnements gamma ne sont pas, n'ont pas de masse, ce ne sont pas des particules, ce ne sont pas des noyaux d'atomes, ce sont des ondes électromagnétiques extrêmement puissantes, comme les rayonnements du soleil, hein, la lumière, mais beaucoup plus intenses.
Des photons.
Ce sont des photons, exactement. Donc, ces rayonnements gamma, eux, n'ayant pas de masse et n'ayant pas de charge, interagissent moins avec la matière, donc vont plus loin. Et c'est pourquoi, si vous avez une source de rayonnement gamma, par exemple du cobalt-60, du césium-137, la radiation émise va très très loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le détecter par hélicoptère. Du coup, c'est plus difficile de s'en protéger, parce qu'il faut des épaisseurs considérables de béton, de plomb, pour arrêter ces radiations, puisqu'elles vont très loin. Et elles traversent notre organisme beaucoup plus facilement et peuvent y déposer de l'énergie et y créer des lésions.
D'accord. Bon, on va revenir dans la deuxième partie. Et avant de faire une petite pause musicale, j'avais une petite question concernant votre travail sur le terrain. Est-ce que vous auriez une petite anecdote sur les conditions de travail sur le terrain ? J'ai cru comprendre que ce n'était pas toujours évident et qu'il y a eu même des poursuites avec des tronçonneuses ou quelque chose comme ça, il me semble.
Alors chez nous, la personne qui intervient le plus souvent sur le terrain, C'est le technicien qui est à la CRIRAD depuis l'origine, qui s'appelle Christian Courbon. Donc c'est lui qui est le plus souvent confronté aux problèmes de terrain. Effectivement, parmi les anecdotes, si on peut dire, du vécu par rapport à l'accueil réservé sur place, je pense que effectivement un des cas les plus frappants, ça a été lorsqu'on a fait une mission préliminaire, je crois que c'était en 2003 ou 2004, sur une ancienne mine à Saint-Pierre dans le Cantal, où mon collègue a été effectivement menacé par un employé municipal qui a brandi une tronçonneuse devant lui pour le menacer. Bon, ça, heureusement, c'est des cas quand même assez rares.
D'accord. Ben, je vous remercie. On va faire la petite pause musicale et puis on reprend juste après.
Ok.
On va écouter Alain Bachung, un dimanche à Tchernobyl.
Sur le toit, les robots sont désormais inutilisables. La décision est prise d'envoyer des hommes pour les remplacer. Des soldats russes qui, pour la circonstance, seront baptisés biorobots. Ce bataillon de jeunes recrues se prépare à monter pour la première fois sur le toit du troisième réacteur. Ils ont entre 20 et 30 ans, tous réservistes, appelés au front pour la mission la plus dangereuse et la plus meurtrière de la bataille de Tchernobyl.
Ah, petit souci, petit souci. On va relancer.
Voilà. Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon vinyle. Évangile, mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle. M'irradiera encore longtemps, bien après la fin. Tu m'irradieras encore longtemps, au-delà des portes closes. Le dimanche à Tchernobyl, j'harangue le soleil, j'harangue les sardines. Dans la rougeur des canaux, à la centrale, y a carnaval, Java, Javel, cerveau, vaisselle. Chaque jour se rit de moi, à de l'or. Tu m'irradieras encore longtemps, bien après la fin. Tu m'irradieras encore longtemps. Tu m'irradieras encore longtemps. Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon vinyle. Évangile, sortir en lamé, en ciré, sortir du chapeau, comme à l'accoutumée. Tu m'irradieras encore longtemps. Tu m'irradieras encore longtemps. Le dimanche à Tchernobyl, tu m'irradieras encore longtemps, bien après la fin. Tu m'irradieras encore longtemps, au-delà des portes closes. Tu m'irradieras encore longtemps. Tu m'irradieras encore longtemps.
Alain Bachung, c'était bien un petit peu caoutchouc au début, mais c'est normal, il y avait une grande intro longue avec un vide, un blanc pour marquer le coup, typique Bachung dans le style. Donc, nous allons démarrer sur la deuxième partie, un petit peu plus technique, la radioactivité. C'est quelque chose de pas simple, hein, en fait, parce que on n'en entend pas parler tant que ça. C'est invisible, inodore, indolore. C'est un type de rayonnement qui possède des caractéristiques redoutables et fascinantes en même temps. Et malgré plus de 30 ans d'exploitation nucléaire, la conscience de l'impact de la radioactivité, incluant les rayons X aussi, sur les organismes vivants est assez faible. Même parmi le corps médical ailleurs. Que le nucléaire médical est devenu est généralisé. Une des raisons, outre le manque de transparence qui semble ressortir, est l'absence de seuil fixe permettant de déterminer la toxicité de la radioactivité. Pourquoi ? Parce que la radioactivité regroupe un ensemble de phénomènes complexes qui touchent l'infiniment petit, les atomes, et dont les conséquences sur la matière divergent selon plusieurs critères. Donc l'absence de simplicité favorisant la complexité des normes, il est difficile de s'y retrouver. Alors Bruno Chariron, est-ce que, on a déjà abordé un petit peu le thème, est-ce que, avant que Sophie nous pourrisse de questions pratiques, qu'est-ce que c'est que la radioactivité selon, d'après votre expertise ?
Déjà, le fait qu'un atome soit radioactif, ça signifie qu'il est instable et que du coup il va se transformer en un nouvel atome. Et cette transformation va s'accompagner de l'émission dans l'espace, dans l'air, de l'émission de radiation. Ça, c'est le premier point. Donc, des atomes, en gros, tous les atomes qui existent ont ce qu'on appelle des isotopes qui sont radioactifs. Je vous donne juste un exemple. Le plus petit atome qui existe, c'est l'hydrogène. L'hydrogène normal n'est pas radioactif. Par contre, il en existe deux isotopes. Un atome d'hydrogène qui a un neutron, c'est ce qu'on appelle le deutérium, qui n'est pas radioactif, et un atome d'hydrogène qui a deux neutrons, il est trop gros. Avoir bourré des neutrons dans son noyau, ça ne lui plaît pas, il est trop gros, et du coup, il va se transformer. Cet atome-là s'appelle le tritium, et lui, il est radioactif. Donc, tous les atomes existants ont des isotopes radioactifs. Deuxième point, à partir du moment où on est en présence d'un atome radioactif, il émet donc autour de lui des radiations, ce qu'on appelle aussi des rayonnements ionisants. C'est une énergie qui est transportée soit par des particules, particules alpha, particules bêta, soit par une onde électromagnétique pure, les photons gamma ou les photons X. En tous les cas, la caractéristique de tous ces rayonnements ionisants, c'est que lorsqu'ils déposent leur énergie dans nos cellules, ça peut créer, et ça crée d'ailleurs des lésions, et ça peut avoir un impact sanitaire, parce que ces radiations, alpha, bêta, gamma, X, neutrons, ont suffisamment d'énergie pour ioniser les atomes qui sont dans nos cellules, et ça aboutit à des cassures, par exemple, de l'ADN, des macromolécules d'ADN qui sont dans le noyau de nos cellules. Alors, heureusement, notre système immunitaire est capable de réparer ces cassures, ces lésions, parce que nous sommes assaillis en permanence par des radiations qui viennent du sol et de l'espace. Le problème, c'est que, comme tout système de réparation, certaines réparations sont fautives, sont mal faites, et à ce moment-là, ça veut dire que si un noyau d'ADN est abîmé et se répare mal, il est muté, la cellule peut devenir cancéreuse, et ça peut aboutir à terme, au bout de plusieurs années, plusieurs décennies, à des cancers. Donc, on comprend bien là qu'il y a une notion de probabilité. C'est-à-dire que plus la quantité de radiation qui nous traverse, la dose, plus elle augmente, plus la probabilité que des lésions dans notre ADN soient mal réparées augmente. Et c'est pour cela que, en ce qui concerne le domaine des faibles doses de radiation, il y a une proportionnalité entre la dose et le risque de cancer et d'autres pathologies.
D'accord.
Mais alors, quelle dose de radioactivité présente un risque pour la CRIRAD ?
Alors, c'est pas la CRIRAD qui est importante là-dedans, c'est plutôt, disons, la position de la Commission internationale de protection radiologique. C'est un organisme international, comme son nom l'indique, qui regroupe des experts de plusieurs pays, plusieurs dizaines de pays. Et la position de cet organisme, c'est de dire, en compilant toutes les études existantes sur l'homme, sur l'animal ou les études théoriques, le modèle qui paraît le plus raisonnable, c'est-à-dire celui qui colle le mieux avec les données expérimentales et scientifiques, c'est de considérer qu'il n'y a pas de dose inoffensive et que toute dose, même très faible, augmente les risques. Et c'est à cause de ce constat qu'il en découle trois principes pour protéger la santé des gens contre les radiations. Le premier principe, on ne doit pas exposer les gens à de la radioactivité, même très faible, si ce n'est pas justifié. Exemple, à une époque, on fabriquait par exemple des manchons de lampes à gaz avec du thorium qui est radioactif. On sait fabriquer des manchons qui éclairent aussi bien sans radioactivité. C'est donc totalement injustifié d'en fabriquer avec de la radioactivité. Et c'est aujourd'hui interdit.
Oui,
Deuxième principe, c'est l'optimisation. À partir du moment où on utilise la radioactivité, on doit tout faire pour que les doses soient les plus faibles possibles. Donc par exemple, vous êtes une installation nucléaire, vous rejetez de la radioactivité, eh bien vous devez mettre en place des systèmes de filtration les meilleurs possibles pour que vous en rejetiez le moins possible dans l'environnement. Et le troisième principe, c'est la dose maximale annuelle admissible, c'est-à-dire qu'il existe une norme de dose subie sur l'année en dessus de laquelle le risque de cancer est jugé inacceptable. Et cette limite est fixée au niveau international et français d'ailleurs, à 50 cancers pour 1 million de personnes. 50 cancers mortels.
Et ce principe, il est valable aussi pour toutes les activités du nucléaire, y compris le médical.
Alors, le problème, là, vous mettez le doigt sur un problème qui est très important, c'est que la réglementation, c'est international, mais en tout cas, c'est le cas en France, la réglementation de radioprotection exclut le médical. C'est-à-dire qu'il est considéré que, puisqu'on utilise là en l'occurrence des radiations pour soigner les gens, ça va échapper à la comptabilisation de la dose maximale annuelle admissible pour le public. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que vous l'avez dit en début d'émission, on utilise de plus en plus la radioactivité au niveau médical pour des examens en rayon X, des scanners, des scintigraphies, des radiothérapies. Et la dose moyenne subie par les Français, du fait des activités médicales, pourrait bientôt atteindre la dose naturelle que l'on reçoit. Et cette dose naturelle, déjà, pose des problèmes de santé publique, en particulier à travers d'un gaz radioactif naturel qui s'appelle le radon, et qu'on respire dans l'habitat. Et la radioactivité médicale rajoute évidemment des risques et une exposition. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle plus longuement, on peut.
On peut, oui, éventuellement rappeler le seuil, déjà, le seuil officiel pour la population.
Ah ben, le seuil officiel, le mot seuil est un peu gênant. Disons que la dose
la limite ou la norme
annuelle admissible, elle est fixée à 1 millisievert par an. C'est-à-dire qu'en dessus de cette dose, le risque de cancer mortel à long terme est jugé inacceptable. En dessous de cette dose, le risque existe, mais il est jugé socialement acceptable. Donc de toute façon, la meilleure façon de protéger la santé des gens, c'est de faire en sorte qu'ils reçoivent les doses de radiation les plus faibles possibles. Et ça va très loin, ce concept, c'est que si on peut abaisser la radioactivité, même naturelle, il faut le faire. C'est d'ailleurs ce qui est fait maintenant. Il y a une composante de la radioactivité naturelle qu'on peut maîtriser, c'est le radon. C'est un gaz radioactif qui émane naturellement du sol, parce que dans le sol, il y a de l'uranium qui fabrique ce gaz, le radon. Mais les concentrations de ce gaz dans nos maisons peuvent être très variables d'une maison à l'autre en fonction de la nature du sol et du sous-sol, en fonction des matériaux de construction et en fonction de l'architecture de la maison. Par exemple, si vous imaginez une maison qui est posée sur le sol directement, le gaz qui est fabriqué dans la terre rentre facilement dans la maison. Si par contre elle est installée sur un vide sanitaire bien ventilé, le gaz rentre dans le vide sanitaire mais ressort par les bouches d'aération. Donc il y aura moins de gaz dans la maison. Donc ce radon est responsable, on estime, par évaluation théorique, de 4000 décès par cancer du poumon en France, par exemple. Donc, depuis maintenant un certain nombre d'années, il est obligatoire de le mesurer, ce gaz, dans les bâtiments recevant du public, écoles, lycées, hôpitaux, d'un certain nombre de départements français jugés à risque. Mais ce que nous disons à la CRIRAD depuis, alors là maintenant, 1988, c'est qu'il faudrait améliorer l'information du grand public, parce que c'est aussi évidemment dans sa maison, chez soi, qu'on peut avoir dans certains cas des niveaux de radon élevés. Ça, c'est facile à mesurer. Une mesure, pour donner une idée, ça coûte une trentaine d'euros. Et lorsque, si on découvre qu'on a une maison où il y a beaucoup de radon, il y a des techniques pour réduire cette concentration.
Alors, l'objet de la CRIRAD, c'est aussi d'informer. Donc, comment vous vous y prenez justement pour informer les gens sur ce problème-là de l'habitat, enfin, du...
Alors, il y a plusieurs possibilités pour informer. Il y a, alors, pour ce qui concerne nos adhérents, il y a un magazine d'information trimestriel qui s'appelle le Trait d'Union. On a le site internet. On organise des réunions publiques. Notre président Roland Desbordes participe à pas mal d'interventions aussi dans les écoles, les collèges, les lycées ou en milieu professionnel. On fait assez régulièrement des communiqués de presse quand il y a des thématiques qui nous semblent vraiment très importantes et pas assez connues du public. Donc il y a plusieurs moyens d'information maintenant. Évidemment, par rapport au constat qu'on peut faire de l'insuffisance de l'information des gens, c'est sûr qu'il faudrait démultiplier encore les informations qu'on peut transmettre au public.
Oui, parce que la difficulté, c'est que vous vous adressez plutôt à des initiés, du coup, les gens qui vont lire votre magazine, qui vont regarder votre site.
Effectivement.
Donc c'est quelque chose de pas évident, finalement.
Non, c'est pas évident.
Comment toucher tous ces gens, par exemple, on a interviewé, on l'a entendu dans le micro-trottoir, finalement, ils craignent rien du tout du nucléaire, il va rien se passer.
Ben, si vous voulez, cette année, pour nous, a été marquée par le fait qu'il y a quand même 4 à 5 documentaires qui ont été diffusés sur les antennes en France, sur lesquels la CRIRAD s'est pas mal investi, a pas mal participé. Donc il y a eu en début d'année un film sur l'uranium au Niger, en février donc le documentaire La France contaminée sur l'impact des mines d'uranium, ensuite le documentaire sur Arte Déchets, le cauchemar du nucléaire, au mois d'octobre je crois, oui, plus récemment sur Public Sénat, le film de Dominique Hennequin, Uranium, l'héritage empoisonné. Donc, alors évidemment, tout le monde ne va pas voir ces documentaires, mais petit à petit, c'est très long, évidemment, tout ça, mais petit à petit, on essaie de contribuer à l'amélioration de l'information des gens sur la radioactivité par les différents médias qui peuvent être accessibles.
Alors là, en plus, on est toujours sur Public Sénat, sur Arte. Comment ça se fait que les grandes chaînes ne relaient pas ces informations ? Enfin, j'imagine que c'est des gens que vous arrosez de communiquer, si je puis dire.
Ah, je dirais pas qu'on arrose de communiquer, parce que on pense aussi que les journalistes, comme tout le monde, se lassent des informations. Donc on essaie de pas trop abuser de communiquer. Après, c'est une question qu'il faudrait poser aux grandes chaînes. Donc, c'est France 3, à travers Pièce à conviction et ce sujet, la France contaminée, a fait quand même un travail de pédagogie, je trouve, très important sur l'impact des mines d'uranium en février. Donc c'est très bien.
Parce que justement, quand on regarde un petit peu l'information, il y a eu pas mal d'accidents ou d'incidents nucléaires que vous avez relayés cette année. On entend parler, pas sur beaucoup de médias. Oui, voilà, la liste est longue.
Cruas, vous pouvez
Tricastin, Cruas, je vous laisse même citer les autres, mais c'est peut-être le moment d'en parler, du coup. Il y a eu quand même pas mal d'incidents cette année, non ?
Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a plus d'incidents cette année que l'année dernière. Il y a, ce qu'il faut que les gens réalisent, c'est qu'il y a effectivement, il y a déjà des dizaines d'incidents chaque année sur les installations nucléaires. Alors, tant que ça reste au stade d'incident, je dirais, heureusement que ce ne sont pour l'instant que des incidents de niveau 1 ou de niveau 2. Mais le fait que ces incidents existent montre, et c'est des incidents qui sont pas banals, hein, je veux dire, l'incident du Tricastin, c'est quand même un rejet d'uranium tout à fait important dans un ruisseau. L'incident récent sur le site de Cadarache avec une sous-estimation très importante de la quantité de plutonium résiduel dans l'installation, c'est sur le principe quelque chose qui est choquant, qui est grave. Donc ces incidents rappellent que l'énergie nucléaire, toute industrie humaine, n'est pas parfaite, que l'incident, ça existe et qu'il faut donc être extrêmement vigilant. Et là-dessus, ce qui nous inquiète vraiment, c'est le signal d'alarme qui est tiré par les travailleurs eux-mêmes du nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment nouveau. Depuis, je dirais, 2008 à peu près, on a été interpellé à la CRIRAD par des, et on l'est toujours, hein, par des travailleurs, en particulier d'entreprises sous-traitantes, qui effectuent la maintenance des centrales nucléaires et qui nous disent qu'eux sont sincèrement inquiets de voir la dégradation des conditions de travail à l'intérieur des centrales en termes de, je les cite à peu près, hein, de formation, de quantité de personnel disponible, de pression par rapport au respect d'une cadence, de tenir des délais de plus en plus courts, de non-respect de procédures. Et eux, qui vivent les choses de l'intérieur, sont vraiment inquiets. Donc le fait que le parc nucléaire vieillit, le fait qu'il y ait cette pression économique pour aller toujours vers plus de rentabilité, plus de rapidité, ça crée quand même des ingrédients qui sont vraiment profondément inquiétants.
Effectivement. Éventuellement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'en protéger ?
Se protéger de quoi, vous voulez dire ?
Des effets de la radioactivité. Est-ce qu'il y a des principes de base qui permettent justement de limiter l'exposition ou de relativiser le danger ?
Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait même faire baisser un petit peu la radioactivité. Alors, naturelle.
Je comprends. Pour que ce soit compréhensible, je pense qu'il faut comprendre des cas concrets. Alors, prenons un exemple, le problème de ce gaz radioactif, le radon, gaz naturel, qui est par contre à plus forte dose dans le cas où il y a des déchets, évidemment, qui produisent du radon, hein, des déchets de mine d'uranium ou des déchets de radium. Mais ce radon, comment s'en protéger ? Eh bien, la première chose, c'est un gaz, c'est l'empêcher d'entrer dans la maison. Donc, si par exemple, vous avez un sol avec un vieux plancher pourri, avec de la terre battue, la première chose, ça sera par exemple d'étanchéifier votre sol en coulant une dalle soignée, sans fissure, étanche. Donc, l'empêcher d'entrer. Deuxième famille de solutions, c'est l'empêcher de s'accumuler. Ce gaz, de toute façon, va rentrer plus ou moins dans votre habitation. Si votre maison est un véritable bocal étanche, double vitrage, pas d'aération, pas de VMC, pas de circulation d'air, ce gaz qui rentre en permanence par le sol et le sous-sol s'accumule petit à petit. Si par contre vous aérez régulièrement votre maison ou bien vous avez un dispositif d'aération par une VMC double flux par exemple, vous allez baisser nécessairement la concentration de ce gaz radioactif, donc la quantité que vous respirez, donc la dose à vos poumons. Voilà un exemple concret. Deuxième exemple, la question des remblais radioactifs. La cour de votre ferme a été malheureusement remblayée il y a 30 ans par des roches radioactives issues de la mine d'uranium voisine. Et bien là, c'est très simple, entre guillemets. Il faut exiger que l'exploitant minier fasse décontaminer la cour, c'est-à-dire prendre des engins de terrassement, pelleteuses, décaper la couche de remblai radioactif et la transporter dans un lieu adéquat, c'est-à-dire soit une ancienne mine d'uranium à ciel ouvert, soit carrément un lieu de stockage de déchets TFA.
Donc des endroits surveillés.
Voilà, des endroits qui ne soient pas devant votre porte, en tout cas.
D'accord.
Alors après, il y a peut-être une autre chose à dire, c'est par rapport à ce qui se passera en cas de fuite massive de radioactivité au niveau d'une centrale nucléaire. Donc là, à ce moment-là, exemple Tchernobyl, on va avoir dans l'air des dizaines de substances radioactives différentes, du césium, de l'iode, du krypton, du tritium, etc. Et juste un mot sur la notion des pastilles d'iode. Si on recommande aux gens de prendre des pastilles d'iode dans un cas comme ça, c'est tout simplement pour saturer leur glande thyroïde en iode non radioactif, de façon à ce qu'elle n'ait pas envie de trop se charger en iode radioactif qui circule dans l'environnement. Donc ces pastilles d'iode vont protéger seulement la thyroïde et seulement contre l'iode radioactif. Ça n'enlèvera pas le fait que les gens vont respirer ou manger du césium-137 ou d'autres substances. Mais au moins, ça diminuera la dose à la thyroïde. Mmh. Donc en fait, pour se protéger, il n'y a pas de recette toute faite. Selon la source de radiation qui vous irradie, les protections vont être différentes. Ça peut être de ventiler, ça peut être de s'éloigner. Si par exemple, vous avez face à vous une source de rayonnement gamma, par exemple, ça peut être un minerai, un morceau de minerai, ou dans une collection de minéraux, vous avez des minerais particulièrement riches en uranium. Se protéger, c'est trois choses. S'éloigner, plus vous vous éloignez de cette source, plus la radioactivité baisse. C'est mettre des écrans. Vous pouvez mettre ce morceau de minerai au moins dans un bocal, et si possible dans un conteneur plus épais, y compris éventuellement en plomb. Et puis troisième chose, c'est rester le moins longtemps possible, puisque en matière de dose, il y a un cumul. C'est-à-dire que si à un endroit donné, vous avez un débit par exemple, 1 microsievert par heure, si vous restez 2 heures, vous aurez subi 2, 3 heures, 3. Donc c'est cumulatif.
D'accord. Donc, on a vu un petit peu les aspects de la radioactivité, un petit peu comment se protéger. Et là, on va s'éloigner un petit peu de la France, parce que déjà, il y a quand même pas mal de problèmes qui s'accumulent en France, hein, et notamment liés à l'extraction. Et on va partir du côté du Niger pour vous nous parler un petit peu d'une façon un peu à l'état des lieux de la situation. Il nous reste 3-4 minutes pour traiter de ce sujet qui est énorme, et je pense que ça motivera pour une prochaine émission rien que sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous détailler, enfin pas trop nous détailler justement, mais nous parler de la situation au Niger?
Disons qu'au Niger, donc, nous on a été interpellés en 2002 par une association locale qui s'appelle Agerinman, qui veut dire en tamatchek bouclier de l'âme, bouclier vivant. Donc c'est une association qui a pour objet la protection de l'environnement, mais aussi le droit à l'éducation, le droit des femmes, etc. Donc cette association nous a appelés en disant, écoutez, nous on constate de plus en plus de problèmes, de maladies, de problèmes d'environnement dans notre région. Est-ce que ça peut être la radioactivité? Donc je vous passe les détails, la difficulté de monter une mission sur place, on a pu le faire, et on travaille sur ce dossier depuis 2003 maintenant. Donc en résumé, voici les principaux problèmes qu'on a pu constater. 1. La pollution des eaux souterraines par un certain nombre d'éléments, dont l'uranium. Et on a pu démontrer que Areva distribue par les puits des eaux contaminées dépassant les normes de l'Organisation mondiale de la santé aux populations. Depuis qu'on a dit cela, certains puits ont été fermés. 2. Il y a, on les a détectés, des ferrailles contaminées venant des usines et des mines qui sont revendues dans les rues. Donc ça, c'est toujours vrai, on l'a dénoncé en 2003, c'est toujours vrai aujourd'hui. L'ONG Agerinman a redétecté des ferrailles et des plastiques contaminés en juin de cette année. 3. On a montré que des remblais radioactifs de la mine étaient réutilisés dans l'environnement. Et le plus choquant, c'était d'en découvrir en 2007 sur la piste devant l'hôpital de la compagnie Cominac, filiale d'Areva à Acocan. Donc ça, on a immédiatement écrit à l'époque à Madame Lauvergeon, présidente d'Areva, en lui demandant d'agir. Alors, on sait que ces matériaux ont été enlevés 8 mois plus tard. Donc déjà, c'est pas tout à fait normal d'avoir attendu 8 mois. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que Greenpeace vient de retourner sur le terrain là en novembre cette année et a découvert à nouveau, dans la ville d'Acocan, une dizaine de zones où il y a une radioactivité tout à fait anormale, jusqu'à à peu près 30 fois supérieure au niveau normal dans les rues de la ville. Quatrième problème, au Niger, les deux usines de concentration de l'uranium ont produit à peu près plus de 35 millions de tonnes de résidus radioactifs qui vont être radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années et qui sont actuellement à l'air libre. Ça veut dire que les poussières radioactives, le radon qui émane de ces collines de déchets radioactifs.
Des montagnes même, hein, c'est assez énorme.
On peut presque appeler ça des montagnes, c'est vrai, puisque c'est des dizaines d'hectares de surface et plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Donc il n'y a pas de confinement de ces déchets radioactifs. Et d'ailleurs, les propres mesures en réalité d'Areva montrent que du fait de la présence de ce gaz, le radon, certains groupes de population à Coquan dépassent la dose maximale annuelle admissible, dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour faire court, ce qu'on a pu constater, soit en allant sur le terrain nous-mêmes, soit dans le cadre d'autres enquêtes faites après, c'est que la situation radiologique au Niger est absolument pas satisfaisante.
Mmh. Mais c'est bien, ça promet. Et vous avez pu vous rendre de nouveau sur place? Il me semble que vous aviez eu des problèmes la première fois, je crois, en 2003, il me semble.
Lorsqu'on a monté la mission en 2003, effectivement, il y a eu deux difficultés. La première, les pressions qui ont été exercées par les deux filiales d'Areva sur l'ONG qui nous invitait, puisque le président de cette ONG a été convoqué par les compagnies qui lui ont demandé d'annuler la mission. On en a discuté avec lui, il m'a téléphoné le samedi avant qu'on parte, et la CRIRAD et Aguéninoine ont décidé de maintenir la mission. Et on savait très bien qu'on n'était vraiment pas les bienvenus de la part des compagnies. Et effectivement, à l'atterrissage à l'aéroport de Niamey, mon collègue et moi, on est les seuls passagers qui ont été fouillés de cette manière-là, et nos appareils de mesure professionnels, les compteurs GGR les plus sensibles qu'on avait, ont été confisqués. Et on sait aujourd'hui que c'était télécommandé, que c'était pas un hasard, et c'est pour ça que lorsque dans l'émission, dans le débat qui a suivi le film sur Public Sénat, Monsieur Saunier, le porte-parole d'Areva, dit « Mais nos portes sont grandes ouvertes, la preuve, la CRIRAD a pu venir », ça prête à sourire. Mmh. Et donc on n'est pas retourné depuis au Niger, sauf, mais pas à Arlit, sauf il y a quelques mois cette année, où on a pu organiser à Agadez une sensibilisation, une formation pour les ONG, les populations et les élus locaux, c'est extrêmement important ça. On a pu faire ça avec l'aide financière du Conseil général de Côte d'Armor, à la demande d'une association, l'association des maires du Nord Niger, et on a pu donc pendant 3 jours leur donner des informations sur la radioactivité, parce que ça c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut informer évidemment les citoyens, les habitants, les élus, les syndicalistes, ceux qui sont les premiers concernés et qui peuvent vraiment se battre. Entre guillemets, se battre, enfin, agir localement.
Vous sentez que le message est passé, vous sentez qu'il y a eu un retour positif ?
Il y a eu un retour évidemment positif. Sur le coup, immédiatement, on le voit. Maintenant, c'est des choses qu'il faut inscrire dans la durée. C'est-à-dire que s'approprier toutes ces notions qui sont quand même, c'est vrai, assez techniques, c'est long. Ça ne peut pas se faire en une seule fois. Et puis, il faut construire des partenariats dans la durée. Il faut créer un climat de confiance, il faut arriver à pouvoir après déléguer des contrôles indépendants à distance. Là, on a la chance au Niger que l'ONG Aguéninoine dispose de personnes fiables, capables de faire des mesures elles-mêmes. Ça, c'est extrêmement important à inscrire dans la durée, de faire des contrôles à long terme.
Comment est-ce que vous obtenez, ça me surprend, une subvention du Conseil général des Côtes d'Armor ?
C'est très simple. Le Conseil général, en l'occurrence des Côtes d'Armor, a des programmes de coopération décentralisée avec cette région, la région d'Agadez. Ces programmes portent sur des tas de choses, hein, l'accès à l'eau, l'éducation, etc. Et l'association des maires du Nord Niger était demandeuse d'informations critiques sur la radioactivité, eh bien, on a pu accompagner une délégation du Conseil général des Côtes d'Armor qui allait faire un peu le point des coopérations et les accompagner et en profiter, entre guillemets, pour animer, co-animer ce séminaire d'information.
C'est intéressant que des pouvoirs publics comme ça s'impliquent dans ce type d'action.
C'est pas des pouvoirs publics, hein, c'est des collectivités. Des collectivités locales,
alors, oui.
Mais bien sûr que c'est. Mais en fait, les collectivités, les conseils généraux, régionaux, les communes ont des marges de manœuvre qui fait que si en leur sein, il y a des élus qui sont intéressés par ces questions. Il y a des projets concrets qui peuvent être mis en place.
C'est intéressant. On va peut-être finir sur cette note assez positive.
Si vous voulez,
ouais. Peut-être une dernière question, un petit peu une petite question piège pour terminer l'émission. Monsieur Bruno Charéron, avez-vous peur du nucléaire ?
Ah, ça, c'est vraiment une question piège. Est-ce que j'ai peur ? J'ai pas peur, mais disons, le nucléaire est une énergie qui, pour être acceptable, nécessite des progrès très importants dans beaucoup de domaines, et je vois pas arriver ces progrès. Il faudrait arriver à gérer les déchets radioactifs. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas le faire. On n'est pas capable de gérer en France les 50 millions de tonnes de résidus radioactifs produits par les mines. On n'a pas de solution pour gérer les déchets radioactifs à très longue période. Les programmes dits de transmutation, c'est du papier. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, il y a pas les solutions ne sont pas là. Face à ça, on a plutôt les inquiétudes concrètes liées au vieillissement des centrales, à l'angoisse dont témoignent les salariés qui travaillent, les sous-traitants. Donc, je dirais peur, non, mais inquiétude, oui.
Bien, merci Bruno Chariron. L'émission se termine et nous vous disons à la prochain jeudi et à bientôt.
On peut réécouter l'émission demain à partir de 11h.
Et voilà, ou sur le stream aussi, sur internet.
Et pour l'instant, on va écouter Commandant Simiol, ça s'appelle le nucléaire.
Ah non, a priori c'est autre chose, on passe à la prochaine émission. Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.